Et on a un soleil en studio. C'est le fun, non? Là, une chronique de la Maison des familles. Écoutez, Madame Boudreau, c'est toujours un plaisir pour moi d'aborder certains sujets de la Maison des familles. Il y a tellement de choses qui se passent là. Puis c'est un plaisir de vous recevoir une fois par mois, que ce soit vous ou vous, les différentes personnes qui travaillent avec vous.
Ça nous change de l'ordinaire.
Oui, puis c'est le fun. C'est le fun d'avoir un organisme comme le vôtre qu'on a ici pour aider la population.
C'est un plaisir pour nous aussi de pouvoir venir parler des sujets qui touchent les familles puis de nos services et tout ça. C'est vraiment, vraiment un plaisir.
Bon, fait que officiellement, en ce lundi, on va y aller avec la chronique mensuelle de la Maison des familles. On reçoit ce matin Mme Caroline Boudreau. Mme Boudreau, vous êtes coordonnatrice en périnatalité. Puis là, il faut faire attention parce que, disons, périnatalité, ça va s'adresser aux mamans. Mais non, ça s'adresse également au papa, au monsieur, au papa en devenir.
Ou à l'environnement, à l'entourage.
La plupart du temps, il faut être deux pour faire un enfant, même si c'est plus toujours aide, le cas. Oui. Il y a toutes sortes de modèles de famille maintenant, mais on est souvent deux parents.
On va y aller avec la moyenne, le pourcentage.
Oui, puis même quand on est seul, en fait, comme vous l'avez si bien mentionné, il y a un entourage aussi qui va dans la famille, quand il y a l'arrivée d'un nouveau bébé. Il y a plein de gens autour, en fait, qui peuvent mettre la main à la pâte. Donc, la périnatalité, c'est pas mal un sujet de société. Ça ne concerne pas seulement les mamans. La périnatalité, quand on parle de périnatalité, on parle de toute la période qui s'étend de la conception avec la grossesse et tout ça.
Quand on passe le petit test, puis qu'il y a deux lignes, je pense.
Oui, d'habitude, c'est deux lignes. Ouais. Des fois, c'est un plus, des fois, c'est des chiffres.
Ça fait longtemps dans mon cas, c'est pour ça.
Ça a évolué. Ensuite, ça va jusqu'aux deux ans de l'enfant, cette période.
Ah, c'est avant et après?
Avant et après. Okay. C'est pour ça, péri, ça veut dire autour. Donc, de la naissance.
OK. Fait que là, on parle, on sait que la maman est enceinte, ou en tout cas. Fait que là, à partir de là, vos services commencent là, mais on parle de quoi, là, exactement, là?
Bien, je dirais notre service principal là, pour la période de la grossesse, c'est vraiment les rencontres prénatales qui sont un peu comme des cours, mais volontairement, on appelait ça des rencontres parce qu'on ne veut pas donner un cours. Okay. On veut que les gens puissent venir partager sur qu'est-ce qu'ils vivent, puis se préparer pour l'accouchement, puis aussi pour l'arrivée de bébé après. Des fois, c'est un grand oubli à une première grossesse là, de préparer la suite avec bébé. On se concentre beaucoup sur l'accouchement. Fait que nous, on fait en fait là, les deux sujets, les deux côtés de ça. Ils peuvent venir en couple ou même parfois, on a des personnes qui, soit s'ils sont seuls ou s'ils ont prévu amener, par exemple, une maman, une sœur, une amie, ils l'amènent aussi pour la préparation à l'accouchement. Donc, le partenaire qui sera présent lors de l'accouchement. Puis, on parle de toutes sortes de sujets. Comment ça se passe un accouchement? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ils peuvent poser leurs questions, discuter.
Et moi, j'ai suivi des cours avec mon ex-femme de périnatalité, de cours prénataux.
C'est aussi là que ça se donnait, je pense, ça. Hein? C'était pas au CLSC qu'on avait ça,
quelque
ce genre
chose
de
comme
cours-là.
Ça, oui. Là, mais là, vous avez des rencontres. Est-ce que ça vient en complément de ces
cours-là?
Exactement.
Fait que là, les cours de préparation, vraiment, ils existent encore au CLSC. Okay. Puis moi, je vous encourage à aller les suivre aussi. Oui. On veut pas leur faire compétition, pas du tout. C'est vraiment complémentaire. Fait qu'on va, nous, on va plus aborder ça d'un point de vue, discussion, les couples, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leurs questions qui leur restent finalement. Puis on va beaucoup parler de gestion naturelle de la douleur ou de gestion non pharmacologique. Fait qu'on se parle pas de médication, etc. Ça, c'est vraiment le côté du CLSC, c'est d'expliquer aux parents c'est quoi les options, médicaments, péridural, etc. Nous, on va parler plus de, entre vous, puis pour la personne qui accouche elle-même, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider passer à travers les contractions et tout ça. Il y a de multiples trucs qu'on peut mettre en place. Puis on va vraiment les tester ensemble. Si, par exemple, je leur parle de faire des points de pression, donc ça, c'est le conjoint qui va faire un point de pression maman, on les teste ensemble, on les essaye. Fait qu'on a vraiment, c'est vraiment plus pratique, on va dire.
Oui, parce que mon fils, la petite, elle a 7 mois, là, et puis ma bru a fait affaire un petit peu avec vous. Elle est allée suivre certaines activités de votre côté. Puis à un moment donné, c'est ça, le garçon il est là, puis qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je fais un point de pression. OK, d'accord. Et puis c'est le genre d'affaires,
exactement, c'est ça.
Il y a même des contractions où c'est au début, là. On ne se rend pas nécessairement à la fin, puis vous avez sûrement des façons de guider les mamans. Là-dedans.
Exactement, à travers tout ça, qu'on choisisse de le faire au complet sans médication, ou même si notre plan, c'est d'être avec la péridurale le plus rapidement possible, c'est toujours une bonne idée d'avoir des outils dans notre boîte à outils, parce que parfois, ça peut être long avant d'avoir la péridurale. Ouais. Donc, de toujours être prêt là, à faire face à ça. Puis, c'est important pour nous d'impliquer le partenaire, justement, pour qu'il se sente moins impuissant face okay. à tout ouais. ce qui va se vivre, parce qu'il y a des choses qu'il peut faire. Mais c'est ça. Je pense qu'on en met beaucoup sur les épaules des papas en salle de naissance, là, d'être le pilier, de, ouais. de, d'aider, tout
à
ça.
À l'époque, c'était ça. Là. Je pense que même toi aussi, Marc-André, de ton côté, Pierrick aussi.
Ben oui, quand ben on oui. est bien préparé.
Oui,
c'est ça.
Ben oui, on tenait la main et on se faisait serrer la main. Des ouais. fois, la main était serrée fort.
À part ça, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais comme vous parlez, ben oui. il y a d'autres affaires.
On se sent moins ouais. impuissant. Là. On se mm-hmm. sent plus participatif.
Mais puis ne serait-ce que de venir à ces rencontres-là pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer puis quelle ouais. place le partenaire peut réellement prendre. Des fois aussi, c'est un peu intimidant pour les gens de se retrouver comme ça dans la salle de naissance avec tous les professionnels puis là, de se dire « Ah, ben là, moi, je veux pas déranger, je veux pas être dans les jambes et tout. » Fait que de réaliser qu'en fait, pour le bébé qui arrive puis pour la maman, ben on est essentiel comme
papa
partenaire.
A une place, ouais.
C'est
ouais.
ça. Puis il a le droit papa. De prendre la place. Puis c'est ça. Fait que les deux parents ont leur place, finalement.
Ben, moi, de souvenir, je sais que les infirmières et tout ça étaient très, très ben, conviviales. Oui. Puis si on avait à se tasser, juste vous tasser un petit
exactement.
Peu. Puis,
ben,
oui. Ça nous, ça nous disait quoi faire, mais ça nous envoyait pas à outrance. Puis comme vous dites, là, on n'a pas à se sentir mal. Là.
Non, c'est sûr. Mais ça fait bien de le savoir qu'on a le droit d'avoir ça. Cette ouais, place-là. Ouais. Mais oui, c'est ça. Le personnel hospitalier est toujours super d'adon avec les femmes.
J'imagine que lors de vos rencontres en périnatalité, on essaie de prévoir tout ce que ça va prendre avant la naissance d'un enfant, que ce soit au niveau matériel, prévoir les façons de vivre aussi. C'est pas seulement l'aspect médical ou technique.
Non, exactement. On essaie vraiment de préparer la suite avec bébé. Dans le fond, ça veut dire quoi accueillir un enfant? Puis, ben, ça va être différent d'une famille à l'autre, ce que ça veut dire. Ça, mm-hmm. On n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on ne veut pas tous faire les mêmes choses. Ne serait-ce que, tu sais, pour la question de l'allaitement ou des préparations commerciales pour nourrissons, de donner le biberon. On peut penser aussi au type de couche. Hein? Maintenant, il y a les couches lavables. Il y a de multiples choix à faire pour les parents. Puis en fait, ben, c'est ça, je suis contente que vous en parliez parce que ben, nous, c'est un peu ça notre objectif, d'aider les parents à se démêler. On n'est pas là pour dire, et ça, c'est la bonne façon de faire. On est vraiment là pour les aider à regarder leurs options puis les aider à trouver ben, c'est quoi qui va les orienter vers un choix. Qu'est-ce qu'ils veulent, dans le fond? Puis de prendre le temps de voir les pour et les contre pour eux dans leur contexte.
Oui, puis les préparer à des choses qui peuvent se produire. Genre, on parlait d'allaitement. Là. Oui. Il y a des dames ouais. qui ont la bonne volonté, qui voudraient ça pouvoir allaiter, pas. Mais ça ne fonctionnera pas.
Exactement.
Fait, être capable d'être préparé à réagir à ça. Là.
D'être préparé, puis c'est vraiment démontré. Un des premiers facteurs de succès dans l'allaitement, c'est d'être bien soutenu. Fait que ça nous amène à un autre service qu'on a. Nous, on offre... hein, quel beau lien!
Oui.
On offre un service de jumelage avec des marraines d'allaitement. Donc ouais. ça, c'est des mamans qui ont allaité, puis qui ont suivi aussi là, des formations, puis qui sont encadrées par la Maison des familles. Elles sont bénévoles. Puis on peut jumeler comme ça une maman enceinte ou une nouvelle maman qui souhaite allaiter avec cette marraine-là. Puis elle va la soutenir. Ça peut être par texto, ça peut être en présence.
C'est
vraiment,
n'importe
elle peut
quand,
se déplacer
là.
N'importe quand. Ah, oui. Ça va vraiment se rendre disponible pour la soutenir tout le long. Fait que c'est pas un soutien médical. C'est pas quelqu'un qui est une professionnelle de la santé. C'est vraiment de maman à maman dans une relation un peu plus d'égal à égal.
Ouais.
Il y a pas comme cette notion-là de... Encore là, je suis expert puis je vais te dire quoi faire. C'est vraiment de l'écoute, du soutien. Mais parfois, les petits trucs rapides, là, qu'est-ce que je fais avec mon engorgement ou j'ai une petite douleur, tu sais, avant de se rendre finalement au médical, des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est une problématique oui. qui a besoin d'un traitement. Mais des fois, on réussit à sauver de ça avec les
ben
petits
oui, parce
trucs
qu'il y en a justement qui vont conseiller, qui se sont rendus au médical, qui vont dire, ben, tu n'auras pas nécessairement besoin de le faire, toi.
Il y a des professionnels médicaux qui n'ont pas eu d'enfants. Fait que, tu sais, en quelque
tout
sorte...
Tout à fait, mais normalement, ils sont bien formés sur
oh,
la
oui, je comprends, mais reste
mais,
que...
Mais c'est ça. Avant de se déplacer, pour rien, avec quand on a un petit bébé, on aime ça là, pouvoir s'éviter ces rendez-vous-là, là, si possible.
J'imagine, avant de venir au fait de dire « je ne peux pas allaiter », vous êtes là pour les accompagner là-dedans, puis vous êtes là pour les encourager, parce que c'est pas négatif, le fait de pas pouvoir allaiter. C'est qu'on peut pas, on n'a pas à s'en vouloir pour ça. Là.
Exactement, puis on a le droit de faire le choix aussi,
oui,
de
oui,
dire
oui,
« c'est pas absolument, je peux pas », mais peut-être juste « ben là, moi, je suis arrivée au bout des moyens que j'avais envie d'essayer pour allaiter. » Puis là, même s'il reste des solutions, peut-être là, pour ma santé mentale ou pour, peu importe, mon organisation familiale et tout ça, là, ce sera pas possible de continuer.
Genre...
Bien, les marraines sont là pour ça. On aime ça le dire qu'on okay. est là, tu sais, de la préparation jusqu'à la dernière fois qu'on va allaiter, qu'importe ça arrive quand. Puis on est aussi là pour faciliter au niveau de... au moment du sevrage, parce que c'est une petite étape à vivre quand même, le sevrage.
Ouais.
Quand on arrête d'allaiter, même si on allaitait que quelques jours, là, il se passe des choses aussi dans le corps et tout ça. Fait que ça fait vraiment bien d'avoir quelqu'un avec qui parler, qui sait qu'est-ce qui va se passer, puis qui peut encore là nous donner les bons trucs.
C'est vraiment l'accompagnement, aller jusqu'au bout.
Nous, comme dans tout, on n'est pas là pour prendre des décisions à la place des gens, ou leur dire, il faut absolument, ou tu sais, on n'est pas la police de l'allaitement, pas du tout. On est vraiment là comme un soutien.
OK.
J'imagine beaucoup la maison des familles. Prenons l'exemple d'une jeune mère qui a une grossesse non désirée ou imprévue. Alors, j'imagine que vos formations, si on peut dire, ou votre accompagnement doit être vraiment très utile pour ce genre de personnes-là. Vous en avez sûrement eu à la Maison des familles.
Bien sûr, c'est vraiment courant quand même, une grossesse non planifiée là, qui arrive comme ça par surprise. Donc, ben oui, puis que ce soit planifié ou pas, en fait, souvent, on se pose de nombreuses questions en début de grossesse, tout au long, puis même après avec l'arrivée de bébé. Donc, c'est un peu ça notre but, de démystifier, de pouvoir répondre, de donner la bonne information, mais après ça, d'aider les gens à faire leur propre choix.
Le support moral.
Selon leurs valeurs, exactement. Puis, ben c'est intéressant qu'on parle de grossesse non planifié parce qu'on offre aussi l'accompagnement quand les gens choisissent de faire une interruption de grossesse.
Okay.
Donc, c'est quand même un petit cheminement là, dans le milieu de la santé. Des fois, on est moins renseigné, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui nous attend. Fait qu'encore là, pas de prétention qu'on est des professionnels de la santé, pas du tout, mais pour offrir le support moral, pour offrir les bonnes informations. Puis, c'est délicat, c'est un moment où la personne a à faire un choix. Hein. Fait que là, c'est sûr qu'on... Plus que jamais, on ne s'interpose pas dans le choix. Par contre, on peut leur donner des outils pour aider à faire leur choix, des listes de pour et des contre et tout ça, qui posent des bonnes questions aussi. On a même des outils qui incluent un partenaire, d'autres qui sont vraiment centrés que sur la personne, pour s'assurer là, que tout ça se passe le mieux possible.